Europa Voice, épisode numéro 3. Et pour cette semaine, on va s'intéresser à l'antisémitisme et au populisme en Europe. Je suis encore une nouvelle fois avec Nathanaël Bloch dans les studios. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Alors, un sujet difficile, bien entendu, puisque on a eu une semaine également difficile en France et ces profanations dans un cimetière en Alsace, on va en parler. Mais ça, c'est aussi un grand signe ou un signe fort de ce qui se passe en ce moment en Europe et c'est compliqué comme situation.
Franz Fanon disait quand il a l'antisémitisme, quand on s'attaque aux Juifs, en fait, tendez l'oreille, on s'attaque à vous. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que les manifestations antisémites de ces dernières semaines en France et plus généralement en Europe depuis ces dernières années, c'est simplement un signal de plus de la montée des comportements racistes, antisémites, populistes qu'on trouve en Europe ces derniers temps.
Alors pour bien préciser dans cette rubrique Europa Voice, on va bien parler de l'Europe et non pas simplement de la France. Donc c'est un sujet plus large que celui de la France. Mais ceci dit, on ne peut pas ne pas passer à travers cette nouvelle, justement, de ce cimetière profané en France. Est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a eu une recrudescence des montées des actes antisémites partout en Europe, notamment en France, on l'a su, en Allemagne, on en a parlé également la semaine dernière, mais ça intervient à un moment justement où on sent vraiment que ça penche d'une certaine façon qui est dangereuse en fait.
La montée de l'antisémitisme en Europe et plus particulièrement en France, pour introduire le propos, ça ne date pas d'hier malheureusement. Par contre, on peut clairement identifier, pour le cas de la France, une montée des actes antisémites et une nouvelle forme d'antisémitisme depuis l'affaire Ilan Halimi. Donc c'est ce jeune juif qu'on avait retrouvé à côté des voies de chemin de fer en état de mort après un guet-apens horrible par ses bourreaux. Et puis depuis cette date-là, en fait, on a observé une résurgence des actes antisémites qui amènent la mort. Et j'ai en tête, il y a quelques mois de cela, cette vieille dame juive, Mireille Knoll, assassinée aussi dans Paris. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que les manifestations antisémites et la profanation du cimetière de Quatzenheim dans le Bas-Rhin cette semaine, c'est simplement un élément en plus dans la vague antisémite et le passage aux actes en France. Mais ce passage aux actes en France, il s'inscrit aussi dans un contexte européen plus global de montée de l'antisémitisme. J'ai réuni quelques chiffres, quelques enquêtes. Il y a eu une enquête d'opinion qui a été réalisée sur plusieurs milliers de personnes en Europe. Un tiers des juifs, des communautés juives d'Europe, envisagent l'immigration. Et puis Michael O'Flaherty, qui est le directeur de l'Agence des droits fondamentaux, le FRA de l'Union européenne, lui a déclaré que plusieurs décennies après l'Holocauste, l'Union européenne reste rongée par des niveaux choquants et croissants d'antisémites. Ça veut dire que d'un côté, effectivement, il y a ces montées des actes, et il y a aussi une prise de conscience, et c'est peut-être là un des problèmes, qu'on en est encore simplement à la prise de conscience des institutions européennes, qu'il y a un problème d'antisémitisme, qu'il y a une montée des actes, et puis maintenant, quelles vont être les solutions mises en place, pas seulement au niveau français, puisque on le voit bien avec Internet, par exemple, c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre national. C'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, en ligne, au niveau européen, pour mettre en place une législation qui permet de modérer les propos antisémites, racistes, fascistes. Et c'est là tout l'enjeu, en fait, pour l'Union européenne, c'est de voir comment est-ce qu'on intègre globalement cette question de l'antisémitisme.
Alors j'allais le dire, que fait l'Europe? Parce que un des buts fondateurs de l'Europe, c'était justement que ça n'arrive plus, le plus jamais ça, ou l'ambition du plus jamais ça en Europe. Aujourd'hui, on fait quoi au niveau de l'Union européenne?
Au niveau de l'Union européenne, on prend beaucoup de décisions, ou en tout cas, on prend beaucoup de statements, et malheureusement, Christophe, on ne fait pas grand-chose. Il faut savoir qu'en Europe, les trois plus grandes communautés juives sont les communautés du Royaume-Uni, je ne parle pas du Brexit maintenant, mais du Royaume-Uni, de l'Allemagne et...
Mais on peut parler du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est encore dans l'Europe. Jusqu'à nouvel ordre, le Royaume-Uni est encore dans l'Europe.
On peut parler à double titre du Royaume-Uni, parce que c'est encore dans l'Europe, et surtout parce qu'on le voit aussi avec son représentant politique, Jeremy Corbyn, qu'il y a véritablement un problème d'antisémitisme au niveau du Labour, et on l'a vu ces dernières semaines avec la démission de certains députés et membres du parti. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème, et c'est pour ça qu'on attend une réponse de l'Europe qui ne concerne pas une seule communauté. Si je prends l'exemple de la Hongrie, je crois que la Hongrie, c'est le seul pays où la population a plus le nombre d'avis défavorables sur la perception des compatriotes hongrois juifs est plus importante que l'avis favorable. Donc ça, c'est un cas, j'allais dire, qui est encore à traiter de manière...
Alors, est-ce que c'est lié à leur leader, à Orban ?
Oui. Oui,
c'est lié, alors,
c'est lié, bien sûr, c'est lié à leur leader. Pour, je vous donne un seul exemple, Orban a mené l'année dernière deux campagnes extrêmement virulentes. Une contre les migrants, donc on fait facilement l'assimilation, vous voyez, migrants, communautés,
étrangers,
pas d'attache à la patrie, à la Hongrie, etc. Donc une campagne extrêmement virulente contre les migrants.
On parle de ce fameux mur qu'il voulait faire entre la Macédoine et tout autour de son pays pour refluer justement le flux de migrants en dehors de la Hongrie.
Le mur en est une des illustrations. Et en deuxième campagne, il a fait une campagne extrêmement virulente, je ne sais pas si vous vous rappelez, contre George Soros, ce milliardaire américain d'origine hongroise avec les pires clichés antisémites qu'on peut déverser. Donc clairement, 100% oui, il y a un lien de cause à effet entre cette montée des populismes et par exemple Orban en Hongrie et les actes et la perception de la population hongroise par rapport aux compatriotes juifs.
Alors au gré de l'histoire, ce qui est inquiétant, c'est la montée d'antisémitisme en France, bien entendu, la montée d'antisémitisme en Allemagne également. Parce qu'on le sait tous, l'Union européenne aussi a été créée, a été développée pour éviter des conflits entre la France et l'Allemagne, mais pour éviter justement tout ce qui se passe autour de ça. Est-ce qu'on voit des signes réellement inquiétants ?
Je vais commencer par le côté positif. Il faut savoir qu'en Europe, l'Allemagne et la France, je crois, sont les deux seuls pays où l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste est obligatoire à l'école. Ça veut dire qu'il y a quand même, j'allais dire, une réaction post-Holocauste, post-Shoah, qui continue, en tout cas, d'avoir un bénéfice certain. C'est un autre débat, de savoir si c'est compliqué d'enseigner la Shoah et l'Holocauste à l'école, mais en tout cas, l'Allemagne et la France ont pris cette décision, voilà, de que l'enseignement de la Shoah et de l'Holocauste soit obligatoire à l'école. Donc, c'est-à-dire que l'Europe sert quand même à quelque chose des années après. L'Allemagne, encore une fois, c'est impossible de ne pas faire le lien avec les partis d'extrême droite ou les populismes. L'AFD en Allemagne et son leader, Björn Höcke, a encore qualifié le mémorial de l'Holocauste de monument de la honte, pas plus tard que l'année dernière. Donc évidemment, encore une fois, oui à votre question, il y a un lien entre cette montée des partis d'extrême droite populistes et les actes et la résurgence de l'antisémitisme en Europe. Ça ne doit pas occulter une autre chose, puisque là on parle des partis fascistes et d'extrême droite populistes européens, c'est que l'antisémitisme n'est pas uniforme. C'est une haine qui est protéiforme, donc il y a évidemment cette montée des populismes qui participe de cette résurgence de l'antisémitisme, mais il y a bien sûr toujours cette importation massive du conflit israélo-palestinien. J'allais dire même cette instrumentalisation par certains partis d'extrême gauche, et c'est là aussi l'enjeu pour l'Europe, c'est quelle réponse trouver à cette haine de l'autre qui est protéiforme, donc qui appelle peut-être des réponses variées, différentes selon les pays, avec encore une fois cet enjeu quand même de trouver un cadre commun, parce que c'est un problème qui dépasse les frontières. Donc c'est toute la problématique de cette lutte contre l'antisémitisme en Europe.
Et ça prend des formes multiples. On parle justement de cette profanation de cimetière dans le Bas-Rhin, mais il y a également cet acte contre un philosophe en France, acte verbal, mais acte ultra-violent à la sortie d'un défilé des Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes, c'est intéressant parce que on navigue toujours entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on navigue entre la condamnation des éléments les plus violents, qu'ils soient racistes, antisémites parmi les Gilets jaunes, et en même temps la volonté de ne pas délégitimer un mouvement social qui a ses raisons d'être, ou en tout cas d'exister par rapport à un mécontentement.
Encore maintenant ? Non, c'est un autre débat.
Et donc c'est compliqué parce que comment est-ce qu'on fait la part des choses ? Comment est-ce qu'on fait la part des choses pour à la fois lutter contre l'antisémitisme et le noyautage du mouvement des Gilets jaunes par certains individus et en même temps apporter des réponses simplement sur le fond du problème. Mais j'allais dire en plus l'altercation avec Alain Finkielkraut, puisque c'est de cela dont vous parliez, elle relève quelque chose d'encore plus compliqué en ce qui concerne l'antisémitisme. C'est tout le débat entre l'antisémitisme, l'antisionisme, en tout cas, enfin la critique de l'État d'Israël, parce qu'on l'a vu, le gilet jaune qui a alpagué Alain Finkielkraut, il lui disait « On est chez nous ici, retourne chez toi, retourne à Tel Aviv. Et puis c'est là où est tout le débat. C'est à partir de c'est quel propos est clairement antisémite, quel propos relève de l'antisionisme que Emmanuel Macron veut pénaliser parce qu'il dit que c'est une forme d'antisémitisme. Il n'est pas tout seul, hein. Il reprend en fait une définition largement adoptée par d'autres acteurs. Et quel finalement propos n'est simplement qu'une critique de l'action et de la politique d'un État, l'État d'Israël, qu'on peut critiquer au titre de la liberté d'expression comme on peut critiquer n'importe quel État. Et c'est là toute la difficulté. C'est ce qu'on a besoin encore d'un autre arsenal législatif pour condamner des propos qui ne sont pas directement antisémites comme les propos, par exemple, j'ai pas envie d'en dire à l'antenne, mais qui sont directement adressés aux Juifs. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver un cadre légal qui permet d'englober d'autres propos et en même temps de ne pas réduire la liberté d'expression? Donc c'est extrêmement difficile. Et sur le point des Gilets jaunes, un autre élément, c'est que évidemment, ça s'inscrit tout ça dans un climat de violence verbale, physique, qui dépasse largement l'antisémitisme. Rien que pour parler, par exemple, de la casse, de la casse matérielle, ou des réactions, ou de certaines réactions, ou certains comportements des services de sécurité politique, la réponse policière, la répression policière. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui est compliqué avec la lutte contre l'antisémitisme, c'est que c'est difficile de l'isoler, et en même temps, on est obligé de l'isoler si on veut y apporter une réponse que l'Europe, pour le coup, et la France n'ont pas encore été capables d'apporter. Et on le voit, hein, la résurgence des actes antisémites. Chaque année, il y a des études, quel que soit l'organisme, que ce soit le CRIV, donc l'organisme des communautés juives de France, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit l'IFOP, que ce soit la Fondation pour l'innovation politique. Dans toutes les études, on observe cette montée de l'antisémitisme. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore su trouver une réponse politique adéquate. On a peut-être le constat, on n'a pas encore la réponse et les outils politiques pour lutter.
Et la solution, elle est où ?
La solution, elle est européenne, Christophe. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le projet porteur de paix, de fraternité entre les peuples, c'est au niveau européen qu'il se construit. On le voit, hein, la solidarité... on voit surtout en fait, quand le projet n'arrive pas à répondre à cet impératif de solidarité. On le voit pour la question des migrations. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge les migrants ? On en a parlé... il y a quelques semaines de cela, les migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Est-ce qu'on laisse seule l'Italie se charger de ça ou est-ce qu'on apporte cette solution, cette solidarité européenne ? On le voit pour toutes ces questions-là. Et sur l'antisémitisme, c'est pareil. C'est-à-dire comment est-ce qu'au niveau du projet porteur de paix européen, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, l'Europe s'est quand même construite sur les cendres de l'Holocauste. Il s'est construit avec deux acteurs qui se sont fait la guerre pendant des années et qui ont pris le lead. La France et l'Allemagne au début à travers la communauté économique du charbon et de l'acier avant même la communauté économique européenne et puis ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. Donc on a réussi il y a 75 ans à construire cet idéal de paix avec la France, avec l'Allemagne. Donc clairement la réponse, malheureusement je peux pas la sortir du chapeau, mais en tout cas je pense que la réponse elle est européenne et de voir comment on lutte. Il faut intéresser aussi les gens à l'Europe. Je veux dire, la meilleure manière aussi de voir que la réponse est européenne, c'est de montrer aux populations européennes que c'est l'Europe qui sera capable de proposer une alternative au populisme en ce moment et une alternative à cette espèce de barrière qui est en train de s'installer entre les vieilles démocraties européennes de l'Ouest et puis les nouveaux entrants qui ont peut-être l'impression de ne pas avoir toute leur place en Europe. Donc je pense, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, je pense que la solution, elle est européenne. Et puis, un autre élément, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que j'ai entendu de ci, de là, des propos comme quoi il fallait exclure de forums Internet des gens qui ont des propos violents. En fait, si vous les excluez, ils reviendront sous une autre forme. Je veux dire, évidemment, il faut condamner ces propos-là, mais il faut trouver une réponse intelligente. Internet, ce n'est pas une zone de non-droit. Hein, c'est aussi ça, c'est un véritable changement de mentalité. C'est faire comprendre que l'antisémitisme aujourd'hui, il est verbal, il est physique, mais il est aussi en ligne. Et malheureusement, on peut faire la jonction entre les trois et ça peut donner des actes physiques menant à la mort et à la tuerie de juifs en France. Et puis on a encore en tête, on est en plein procès là, du musée juif de Bruxelles, on sort de celui des enfants de Toulouse. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue que la haine en ligne, elle n'est pas isolée. La haine en ligne, elle participe d'une haine physique qui peut avoir des conséquences dramatiques.
Absolument, c'est un sujet qu'on va suivre dans cette rubrique. Merci Nathanaël d'être passé nous voir.
Merci Christophe.